Je vous invite donc à vous tourner dans le livre du prophète Osée, le premier par ordre dans votre Bible des petits prophètes. C'est ces pages blanches dans vos Bibles qui sont peut-être encore un peu collées. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de passer beaucoup de temps avec ces petits prophètes. Ils ont le nom de petits simplement parce que le volume de leurs écrits est moindre que celui des prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, mais leur importance est tout aussi grande et ils ne sont pas nécessairement petits en volume. Là, on a encore 14, il y a 14 chapitres dans le prophète Osée. Le prophète Osée est l'instrument de Dieu pour parler au peuple d'Israël qui a été divisé en deux royaumes. Osée parle essentiellement au royaume du nord, le royaume dont la capitale est Samarie, qu'on appelle Israël ou encore Éphraïm, d'après la plus grande des tribus. Éphraïm qui voulait dire doublement fertile, et en fait on a vu que il n'était pas très fertile pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'il s'était livré à l'idolâtrie. À l'idolâtrie qui, pour Dieu, est comparable à l'adultère, à la tromperie d'une femme envers son mari ou d'un mari envers sa femme. Dans le cas présent, Israël, le royaume du Nord, avait fabriqué des idoles, des veaux d'or, dans l'espoir d'éviter que le peuple qui habitait dans la région du Nord ne retourne à Jérusalem pour adorer le vrai Dieu. Ils avaient fabriqué ces idoles. Encore une fois, si on prend le temps et l'énergie, l'intérêt d'étudier ces passages de l'Ancien Testament, c'est parce que ils ont été écrits pour nous, sur qui la fin des temps arrive, pour nous reprendre. Et c'est toujours passionnant de voir qu'en fait cet Ancien Testament, il est d'une actualité brûlante. Comme un des mortels pourrait penser, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, vous tous qui êtes dans cette salle, à étudier, à lire et essayer de trouver des leçons qui ont été données voilà plus de 3000 ans plutôt. Et ou à peu près, c'est parce que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant, y compris la parole de l'Ancien Testament, elle peut séparer la moelle des os, les sentiments des paroles, elle touche nos cœurs, elle nous enseigne, elle est riche. Jésus et Dieu, ce sont les maîtres de la communication. On va toujours faire des stands à la fac de lettres, pour ceux qui nous ont connus il y a 20 ans, où on faisait déjà ça. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, on est au contact des jeunes, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont dans le cœur, leurs espoirs, leur aspect blasé sur la vie, ou déjà, c'est pour certains. Et il y en a beaucoup qui sont en infocom. Et j'aime bien leur dire, ah ben vous savez qu'en fait, si vous voulez apprendre la communication, vous pouvez lire la Bible. Dieu sait être pertinent. Là, il s'adressait à une population qui était essentiellement agricole, ou qui s'adonnait à l'agriculture. Il avait des images qui parlaient à cette génération. Nous sommes de plus high-tech aujourd'hui, on dirait. Et on se dit, c'est dommage qu'il n'y ait pas des illustrations plus informatiques. Changer de logiciel. Attention aux virus qui vont vous faire bugger. Mais en fait, les images de l'agriculture, même si on est loin pour la plupart d'entre nous, de l'agriculture, elles nous parlent encore. Et la semaine dernière, on avait vu cette injonction, cette exhortation du prophète, semé pour la justice, moissonné pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il déverse pour vous la justice. Vous avez cultivé le mal, moissonné le péché, mangé le fruit du mensonge. Toutes ces illustrations parlaient à l'époque et elles nous parlent encore. Et je vais vous mettre en garde. Lorsque vous êtes averti de ces certaines choses par la parole de Dieu, vous êtes doublement responsable. Vous serez traité plus durement dans le sens que vous avez déjà été prévenu. Un homme averti en vaut deux, nous dit la sagesse populaire. Lorsqu'on est averti par Dieu, on est deux fois plus responsable. Et des fois, je me prends à me sentir coupable parce que je peux vous dire de déchiffrer, de défricher. Déchiffrez la parole pour défricher votre cœur, défrichez-vous un champ nouveau. Si on en reste là, vous dites c'est bien, il faut passer la charrue dans nos cœurs, mais toujours demandez-vous comment la parole de Dieu, elle peut se mettre en application concrète dans votre vie. Et je me demande combien d'entre vous ont réfléchi à ce verset de « défrichez-vous un champ nouveau ». Break up your fallow ground, pour parler en King James. Parce que quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites, c'est bien, bien beau Pierre, mais comment je fais ça pratiquement? Alors on ne va pas refaire l'étude, la prochaine fois que j'étudierai, je passerai plus de temps là-dessus, mais je parlais de la parole de Dieu qui est comme une charrue qui peut justement retourner nos cœurs. Est-ce que pour défricher, on doit lire la parole en cherchant à l'appliquer? C'est ça comment on peut faire. On peut demander à l'Esprit Saint aussi de venir nous reprendre. On peut demander aux circonstances de nous faire réfléchir, de nous faire peut-être souffrir, de faire que notre cœur soit plus tendre envers les autres, envers ceux qui souffrent, envers ceux qui sont encore esclaves du péché. L'idée, lorsque on lit la parole, c'est pas qu'elle parle aux autres, mais qu'elle parle à notre cœur, à nous-mêmes. Et on aborde dans... Je vous rappelle que Dieu, encore une fois, c'est le maître de la communication. Et sachez qu'à l'époque, il avait demandé à Osée de faire quelque chose, une application pratique de ce que Dieu ressentait, qui consistait à aller épouser une femme prostituée. Et il voulait que le prophète, quelque part, éprouve les mêmes sentiments que Dieu éprouve envers nous. Il éprouvait envers Israël qui s'adonnait à l'idolâtrie, et envers nous, qui nous attenons à l'idolâtrie sans le savoir. Vous m'avez entendu plusieurs fois, vous le savez sans doute, mais il est toujours bon de rappeler les choses évidentes. L'idolâtrie, ça ne consiste pas à avoir une petite statue qu'on sort le dimanche matin ou tous les soirs et devant laquelle on se met à genoux en faisant brûler de l'encens et en faisant des simagrées, quelque chose. L'idolâtrie, c'est d'avoir quelque chose dans notre vie, dans notre cœur, qui prend la première place qui doit revenir à Dieu. Et encore une fois, ça peut être des choses de toute évidence mauvaises, comme l'alcool, la pornographie, la recherche de l'argent, de la richesse. Mais je faisais remarquer que ça peut être aussi des choses qui n'ont rien de mauvais en elles, sauf lorsqu'elles prennent la première place dans notre vie. Il est important de travailler. Paul disait que si les gens ne travaillaient pas, ils n'auraient pas de nourriture, qu'il fallait cesser de, en quelque sorte, l'assistanat, pour reprendre un mot qu'on entend dans les médias aujourd'hui. Il fallait donc appliquer dans nos vies des choses pratiques. et ne pas se contenter de paroles. Priez ce matin avant le culte. Il y a beaucoup de paroles qui sont partagées, mais ce qui compte, c'est l'effet qu'elles ont dans votre vie, dans votre cœur. Et cette situation que le prophète devait vivre, ça lui a montré la souffrance de Dieu envers nous, vis-à-vis de nous, lorsque, encore une fois, nous livrons l'idolâtrie qui peut être, j'allais dire, une bonne chose comme l'amour du travail, l'amour de notre propre famille, de nos enfants. Ces choses-là sont bonnes. C'est même un péché que de ne pas avoir de l'amour pour sa famille, Paul en parlera. Mais si on ne fait plus la volonté de Dieu parce qu'on préfère s'occuper de nos enfants ou s'occuper de notre travail, à ce moment-là, ce sont des idoles. Et donc Dieu, à travers ce peuple d'Israël, il s'adresse à vous et à moi. Est-ce qu'il y a dans ma vie des choses que je devrais mettre de côté, des choses auxquelles je devrais renoncer, des idoles que je devrais briser? Et on a dit qu'en fait, la vraie repentance, c'est pas de réaliser qu'on a brisé la loi de Dieu. La vraie repentance intervient lorsqu'on s'aperçoit qu'on a brisé le cœur de Dieu. C'est un problème de briser la loi, de violer la loi, mais c'est quelque chose qui ne va pas nous faire aller vers Dieu. C'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance, dit Paul dans Romains 2. Et donc, Dieu va juger son peuple. On sait que le royaume du Nord va partir en exil en Assyrie en l'an 722 avant Jésus-Christ. Ça sera une terrible époque de la vie du peuple d'Israël. Le royaume de Juda, le royaume du Sud, avec pour capitale Jérusalem, ne va pas faire beaucoup mieux. Il va être lui aussi emporté à Babylone 2 siècles plus tard. Mais c'est ce jugement que Dieu applique, il est toujours justifié par son amour. Et s'il applique le jugement avec son peuple, avec le peuple d'Israël, avec qui il avait établi des alliances, l'alliance avec Abraham, et puis plus tard l'alliance avec Moïse, il ne revient pas sur ses propos, sur ses engagements, mais il est prêt à nous faire passer par des épreuves pour nous purifier. Et donc, c'est toujours un peu curieux, lorsqu'on lit les prophètes notamment, de voir que Dieu est prêt à nous punir, mais c'est parce qu'il nous aime. Et vous qui êtes parents ou grands-parents, vous savez ce que c'est que d'exercer la discipline que les enfants ne veulent pas accepter. Mais généralement, vous le faites pour leur bien. Vous le faites parce que vous les aimez. Vous dites à votre bébé, non, ne mets pas tes doigts dans la prise électrique. Je vous conseille de mettre un cache plutôt que des paroles. Mais ce n'est pas pour les empêcher d'avoir la liberté de mouvement qu'ils voudraient avoir. C'est parce que vous savez que ce péché de mettre 2 doigts dans une prise électrique pourrait leur être fatal. Et donc, on va voir, à partir du chapitre 11, c'est davantage l'amour de Dieu qui est exprimé. J'aime bien cette expression que même dans les nuages les plus noirs, il y a toujours un liseré qui est brillant, il y a un liseré argenté, doré. Il y a toujours l'espoir que Dieu veut nous donner lorsqu'il nous reprend. Et là, il va nous parler. On va lire ensemble le chapitre 11. On va essayer peut-être aujourd'hui, en fonction de notre temps, voir si on peut lire étudier les deux chapitres 11 et 12. Si vous voulez, vous tournez avec moi, donc Osée, chapitre 11, je lis dans la version second 21. « Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens en l'honneur des idoles. C'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui l'ai pris par les bras. Mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. J'ai été pour eux pareil à celui qui soulève la pièce d'attelage, pesant sur la bouche, et je leur ai présenté de la nourriture. » Verset 5. « Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. L'épée fondra sur leur ville, exterminera, détruira leur soutien à cause des projets qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut. Mais aucun d'eux ne se lève. Comment te traiterai-je, Éphraïm ? Faut-il que je te livre à l'ennemi, Israël ? Dois-je te traiter comme Adma, te rend semblable à Tseboïm ? Je suis tout bouleversé. Je suis rempli de compassion. Je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira. Et des enfants accourront de la mer. Ils accourent de l'Égypte pareil à un oiseau et de l'Assyrie pareil à une colombe. Et je les ferai habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Le prophète, inspiré par l'Esprit Saint, fait un retour sur l'histoire d'Israël et de Jacob. Il revient et il montre les péchés du peuple. Encore une fois, Dieu commence par affirmer son amour. « Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Dieu nous aime, Dieu aime son peuple. C'est la raison précise pour laquelle des fois il nous laisse passer par des épreuves, où il nous laisse faire l'expérience des conséquences de notre péché. Peut-être que vous avez fait ça avec vos enfants. Tu veux tout goûter, tu veux goûter ce citron, vas-y. Et vous souriez lorsque le petit bébé fait une grimace lorsqu'il ressent l'acidité du citron. Et quelque part, de façon plus grave et plus sérieuse, lorsque nous persistons dans le péché, Dieu nous laisse faire l'expérience des conséquences de notre péché. Il veut que nous revenions à lui. Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. C'est intéressant parce que c'est une prophétie surprise en quelque sorte. Lorsque dans Matthieu il est question de la naissance et de l'arrivée de Jésus-Christ, il fait allusion justement à ce passage. Lorsque on lit, c'est dans Matthieu 2, 15, on va lire à partir du verset 13, la fuite en Égypte. Lorsqu'ils furent partis, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » J'aime bien insister sur l'unité de toute la parole, toute la Bible, l'Ancien comme le Vieux, l'Ancien comme le Nouveau Testament, je veux dire, l'Ancien préfigure ou annonce le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament montre comment l'Ancien Testament s'accomplit. Il y a même une façon de lire la Bible qui pourrait consister, il y en a qui préfèrent lire le Nouveau Testament parce que ça parle plus directement. Une façon de faire, c'est de lire le Nouveau Testament dans une Bible où il y a des références, et chaque fois qu'il y a une référence à l'Ancien Testament, d'aller lire le passage de l'Ancien Testament. Et là, de toute évidence, lorsqu'on parle de Noé, de la fuite en Égypte, on oublie, on lit que le prophète avait dit, mais on ne sait pas exactement où c'était. Vous pouvez rechercher et voir, j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte, c'est Osée 11.1. Peut-être 11.2 dans la version anglaise, il y a une petite écart de un verset, je crois. Dieu aimait Israël, Dieu aimait son peuple, comme un père qui aime un fils malgré son entêtement. C'est toujours un privilège que d'être parent pour mieux comprendre l'amour que Dieu a pour les hommes. Il est leur père, il est le père du fils prodigue qui n'a qu'un désir, que son fils revienne à lui. Et lorsqu'on est parent, on s'aperçoit que oui, un enfant peut faire les pires bêtises, même faire des choses graves, mais il y a toujours cet amour qui est dans le cœur. C'est toujours bouleversant de voir les mamans des enfants qui sont condamnés pour des actes de meurtre ou de terrorisme, et de voir qu'elles ont toujours, et c'est la meilleure illustration de l'amour que Dieu a pour nous. Ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont offert des sacrifices au Baal et fait brûler de l'encens. Ils ont, au lieu d'honorer Dieu, ils se sont montrés ingrats. Les versets 1 à 4 parlent de l'ingratitude. Est-ce que vous avez l'attitude ingratitude ou l'attitude gratitude ? Certains sourient parce que c'est une expression que j'aime bien utiliser, l'attitude gratitude. Est-ce que vous remerciez Dieu pour tous les bienfaits qu'il vous donne ? Ou est-ce que vous êtes toujours à vous plaindre parce que vous n'avez pas assez ? Ou vous ne comprenez pas qu'un tel à côté de vous est telle bénédiction et que vous, vous ne l'ayez pas ? Votre ami a eu le bonheur de trouver l'épouse, la compagne de sa vie, et vous êtes toujours célibataire. Votre ami a eu ce diplôme prestigieux, mais vous ne l'avez pas encore. Vous ne savez pas si vous allez avoir l'énergie de préparer ce diplôme. Ou est-ce que vous remerciez déjà Dieu pour toutes les bonnes choses ? Et ce qui est intéressant, c'est l'attitude gratitude. Elle va vous bénir. Parce que souvent, on se fait du mal à vouloir des choses qu'on n'a pas encore, ou qu'on n'a pas, ou qu'on n'est pas appelé à avoir. Et on ressent un manque, au lieu de ressentir une satiété pour toutes les autres choses que Dieu nous a déjà données. Et c'est souvent lorsque Dieu nous retire ces choses, qu'on se dit, zut, c'était bien avant. Moi, des fois, ça peut être simplement la perte d'un jeu de clés. Est-ce que vous pensez à remercier Dieu que vos clés sont dans votre poche ? Moi, je le fais rarement, de dire merci Seigneur que mes poches ne sont pas trouées et que j'ai toujours mes clés. Mais l'autre jour, j'ai laissé tout un trousseau de clés sur la boîte aux lettres, et Dieu merci, il y a des voisins charmants qui les ont vus et les ont rapidement mis en sécurité, mais ma vie était complètement changée. J'avais perdu mon gros trousseau de clés. Je me disais, peut-être c'est tombé en de mauvaises mains, il va falloir changer toutes les serrures de l'église. Et j'étais omnubilé, par cette perte. C'est presque comme si, ah, c'était bien quand j'avais encore toutes mes clés. Et c'est pareil avec la santé. Normalement, on ne devient pas plus jeune avec le temps qui passe. Ah, on se dit, ah, quand je pouvais encore courir des marathons, c'était formidable. Au lieu de se réjouir que je peux encore marcher. Et vraiment, cette attitude de gratitude, c'est une leçon de vie que je vous encourage à pratiquer. Là, il s'était détourné de Dieu, il ne montrait aucune gratitude envers Dieu. Ils allaient se prostituer, ils faisaient des sacrifices aux idoles qui représentaient le dieu Baal, qui était le dieu des récoltes, de la richesse en quelque sorte, qui était le mammon de ces sociétés agricoles, de se dire, si j'offre des sacrifices à ce Dieu, il va me bénir avec des récoltes abondantes. Je ne cherche pas à faire la volonté du Dieu créateur de l'univers, je cherche à faire ma propre volonté. Je me dis que je peux peut-être manipuler, entre guillemets, la chance si je fais brûler de l'encens devant ces petites statues. C'était souvent accompagné de rites sexuels immoraux relatifs à la fertilité, à la production. Il y avait des prostituées sacrées, mâles et femelles, mâles, hommes et femmes. Et en fait, quand on fait ça, on est comme la femme du prophète Osée qui continuait à se prostituer, à lui être infidèle alors qu'il avait tout investi en elle. Dieu nous dit, c'est moi qui ai guidé les pas d'Éphraïm, qui les pris par les bras, mais ils n'ont pas vu que je les guérissais. Bientôt, Joshua va commencer à vouloir marcher. Daphné est au moment où on la prend et elle commence à cavaler. Et Dieu nous dit qu'il nous traitait, il traitait le peuple d'Israël comme ça. Il nous traite comme ça aujourd'hui, lorsque nous venons à lui. On ne sait pas encore marcher, mais il nous prend et il nous apprend à marcher. Et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Ils pensaient peut-être que c'était parce qu'ils connaissaient les bonnes plantes, la sagesse ancestrale qui s'était passée, alors qu'en fait c'était Dieu lui-même qui guérissait. C'est toujours difficile d'être l'objet d'ingratitude ou de la non-reconnaissance de votre propre travail. Une expérience classique, c'est dans le monde du travail, c'est vous qui vous donnez tout le mal pour faire aboutir un projet, et en fait c'est votre patron qui va s'en vanter et qui va essayer de prendre le fruit de ce travail sans jamais vous reconnaître votre part dans ce travail. Dieu, c'est terrible. Il a délivré le fils de l'Égypte, il les a fait sortir d'Égypte, mais ils n'ont jamais vraiment remercié Dieu. Il les a portés, il les a nourris, c'est lui qui leur apprend à marcher. Et puis cet enfant l'abandonne pour suivre des idoles. C'est dur à vivre pour un père. On doit beaucoup à nos parents, mais en fait, on doit vraiment tout à Dieu. Et d'aller dire merci à la chance ou merci à mes relations ou à mon compte en banque pour des choses avec lesquelles Dieu me bénit, c'est une sacrée forme de non-respect. C'est même de la stupidité parce qu'on remercie quelque chose qui n'a pas lieu d'être remercié. Et c'est un message de toute la Bible. Tout don excellent vient du Père des Lumières. Toutes les bonnes choses dans votre vie, c'est pas parce que vous avez eu de la chance. Bannissez le mot chance de votre vocabulaire, vous, frères et sœurs chrétiens et chrétiennes. La chance, ça n'existe pas. C'est Dieu qui gère votre vie, c'est Dieu qui permet des choses parce qu'il a des desseins. Je connais moi, les desseins que je forme pour vous, déclare l'Éternel, disait le prophète Jérémie, reprenant les paroles de Dieu envers Israël et envers son peuple en général. De l'ingratitude. Et il nous dit, je les ai tirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Quelle belle expression. On pense, quand on parle, pense au mot cordage, à ces grosses cordes en chanvre qui permettent d'amarrer les gros ferries à quai. Et au lieu d'être des cordages en polypropylène ou en nylon ou en chanvre ou en tout ce que vous voulez, ce sont des cordages d'amour. On a l'impression que c'est presque surdimensionné. Quand je lis cette expression, il pourrait avoir un filin d'amour, mais c'est des cordages d'amour. Son amour pour chacun de nous est énorme. Et cet amour, il l'a démontré une fois pour toutes, pas par vos circonstances, mais par le sacrifice de Jésus à la croix. Chaque fois que ça ne va pas et que vous voyez une croix, rappelez-vous que oui, Dieu m'aime, malgré les épreuves, malgré les chagrins, malgré les deuils, malgré la maladie, Dieu m'aime. Et il me dirige avec des cordages. C'est toujours spectaculaire de voir ces petits bateaux qui ont des moteurs très puissants, qui sont bien ancrés dans l'eau ou bien enfoncés dans l'eau, et qui arrivent à tirer ces énormes porte-containeurs dans les canals de Suez ou canal de Panama. Et ils ont ces cordes. Dieu nous dit, veut nous diriger comme ça. Avec des liens d'humanité. La question c'est, qu'est-ce que c'est ces liens d'humanité? Je crois que ça veut simplement dire qu'il n'a pas besoin de faire des choses spectaculaires. Mais jour après jour, il pourvoit à nos besoins. Sa bonté, elle est extraordinaire dans l'ordinaire de notre vie. Et nous nous attendons au tonnerre qui frappe. Il peut parler comme ça, mais est-ce que vous voyez son action, sa main dans l'ordinaire de votre vie, dans l'humanité de votre vie? Et il dit qu'il est pareil à ceux qui soulèvent la pièce d'attelage pesant sur la bouche pour leur présenter de la nourriture. Ça nous rappelle cette déclaration de Jésus, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, car mon fardeau est léger et mon joug est aisé et mon fardeau léger. » On se met des fois sous des choses terribles. On se met la pression. On pense qu'il faut faire des tas de choses pour plaire aux autres. Et souvent, c'est le désir de plaire aux hommes, on sait que c'est un péché, et c'est une très mauvaise conseillère. Ce désir est un très mauvais conseiller. On va se mettre des joues qui ne sont pas le joug que Dieu a pour nous. Si dans votre vie, vous trouvez que le joug n'est pas aisé, c'est que ce n'est pas le joug de Jésus. C'est un joug qui vous a été balancé dessus, peut-être par quelqu'un d'autre, qui veut se décharger de choses qui sont sa responsabilité. Mais là, il soulève. Il est tout puissant pour soulever quelque chose qui nous accable. Et il nous récompense en nous donnant de la nourriture. Ils avaient quelque chose comme des morses, des rennes qui les empêchaient, qui les tenaient, qui assujettissaient un attelage sur leur propre bouche, ils ne pouvaient même plus manger. Et en fait, il veut vous bénir. Il veut enlever ce poids et vous permettre de vous délecter de sa présence. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai de bonnes choses. Rien de ce qui est bon ne vient pas de moi. Il peut utiliser des tas de choses pour nous bénir, mais à la base, si c'est vraiment une bénédiction, pas quelque chose qui procure une joie passagère comme le péché, c'est parce que c'est quelque chose qui vient de lui. Verset 5. Ils ne retourneront pas en Égypte, mais l'Assyrien sera le roi parce qu'ils ont refusé de venir à moi. C'est la prédiction de leur départ en exil. On sait en plus, on l'a rappelé, que les Assyriens étaient les plus cruels des peuples de l'époque. Ils les attachaient avec des hameçons dans les joues, tous sur un filin, ils faisaient avancer toutes les troupes, toutes les esclaves plutôt, vers leur pays. C'est eux qui ont inventé le supplice de la croix, c'était un peuple excessivement cruel. Et tout ça va leur tomber dessus. Verset 7, « Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi. » En anglais, il y a un chant classique qui dit qu'on est « prone to wander », qu'on est enclin à aller se gambader à droite, à gauche, comme des moutons qui ne suivent pas leur maître. On les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun dos d'eux ne se lève. Il met en évidence la dureté de leur cœur. Ils suivent leur propre plan sans penser une minute à la volonté de Dieu. Est-ce que vous vous levez le matin en vous disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Est-ce que tu as des instructions pour moi aujourd'hui? Ou est-ce que vous dites « Seigneur, je n'ai pas le temps de te parler, j'ai trop de choses à faire, ne m'embête pas avec des projets, avec tes projets. » Je vous dis ça, sachez que je suis aussi coupable de faire ça que vous pouvez l'être. Vous ne l'êtes sans doute pas, mais j'ai mes plans. Je pense avoir entendu des plans de Dieu il y a plusieurs semaines. Maintenant, je travaille dessus, viens pas m'interrompre. En fait, les interruptions de Dieu, c'est la direction de Dieu. J'ai toujours beaucoup d'admiration et de respect, d'envie des fois, de voir comment des gens sont prêts à tout lâcher et à s'adonner à ce qui arrive lorsque c'est de toute évidence quelque chose que le Seigneur a permis et non pas une occasion de chute, un péché. Le sol de leur cœur s'était endurci, il fallait qu'ils le défrichent. Ce qui est merveilleux, c'est que eux gardent un cœur non défriché, mais le cœur de Dieu, il reste souple, il reste plein de tendresse. La fin du verset 8, il leur demande « Est-ce que je dois vous livrer à l'ennemi ?» Il cite les villes Adma et Tseboïm, qui sont les villes comme Sodome et Gomorre dans la Genèse, qui avaient été livrées à l'ennemi. « Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. » C'est pratiquement le mot qu'on traduirait dans le Nouveau Testament par « grâce ». Dieu, il ne peut pas s'empêcher, il est comme ça, il est un Dieu plein d'amour. Il doit se faire violence, on pourrait dire, pour exécuter ses jugements, c'est dit dans la Bible. C'est quelque chose d'étranger à Dieu que de punir ses enfants. Mais il précise que je n'agirai pas en fonction de l'ardeur de ma colère. Je renonce à détruire Éphraïm car je suis Dieu et non pas un homme. Il va les laisser partir en exil, mais il va garder un reste qui va revenir à Dieu, qui sera sauvé. Aujourd'hui, on avait une conférence avec Roger Liebi qui disait qu'il y a 17 millions ou 18 millions de juifs de par la terre. Mais il y en a près d'un demi-million qui sont sauvés déjà. Il y a un reste qui va connaître Dieu de façon réelle par Jésus-Christ. Il n'agira pas en fonction de l'ardeur de sa colère. Il est Dieu parce qu'il est Dieu et non pas un homme. Je suis saint au milieu de toi, je ne viendrai pas avec colère. Ça, c'est la différence entre Dieu et les hommes. Nous, on invoque souvent dans notre colère la raison d'une sainte colère. Jésus s'est mis en colère contre les marchands du temple, c'était une sainte colère. Mais souvent, on laisse notre chair, notre vieille nature s'exprimer dans la colère. Il n'est pas « Je renonce à détruire Éphraïm car je suis Dieu et non pas un homme ». Ça, c'est quelque chose qu'il nous rappelle plusieurs fois, comme dans Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Il a passé des alliances avec son peuple, il ne va pas revenir dessus. Et il va le faire sans colère. Il aurait toutes les raisons d'être en colère, mais il pardonne et il veut continuer d'aimer. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira. Et des enfants accourront de la mer, ils accourront de l'Égypte, pareil à un oiseau. Il ne va pas se livrer à la colère, mais un jour il va rugir comme un lion, mais pour les sauver. Les enfants vont venir écouter ce lion qui rugit d'amour. Pareil à un oiseau, ils vont venir. De la Syrie, ils reviendront pareil à une colombe. Il les fera habiter dans leur maison, déclare l'Éternel. Dieu a de bons plans pour ses enfants, malgré la dureté de leur cœur. On va lire le chapitre 12. Éphraïm m'entoure de mensonges et la communauté d'Israël de tromperies. Juda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du saint fidèle. Éphraïm se nourrit de vent et poursuit le vent d'Est, et chaque jour il multiplie les mensonges et la violence. Il fait alliance avec l'Assyrie et on porte de l'huile en Égypte. L'Éternel est aussi en procès avec Juda, le royaume du Sud. Il interviendra contre Jacob, un autre nom du royaume du Sud, en fonction de sa conduite. Il lui paiera un salaire conforme à ses agissements. Puis il rappelle ce qui s'est passé avec le patriarche Jacob. Dans le ventre maternel, Jacob a attrapé son frère par le talon et devenu homme, il a lutté avec Dieu. Il a lutté avec l'ange, il a été vainqueur, il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. L'Éternel est le Dieu de l'univers, son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton lieu, garde la bonté et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Éphraïm est un marchand qui a dans sa main des balances fausses. Il aime tromper. Il dit, en vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune faute, rien qui soit un péché. Et moi, qui suis l'Éternel, ton Dieu depuis l'Égypte, je te ferai encore habiter sous des tentes comme les jours de fête. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Si Galaad n'est que trouble, ils seront certainement réduits à rien. Ils sacrifient des bœufs à Gilgal, même leurs autels seront comme des tas de ruines sur les sillons des champs. Jacob s'est enfui au pays d'Aram. Israël a servi pour une femme et pour une femme, il a gardé des troupeaux. Par un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël d'Égypte et par un prophète, Israël a été gardé. Éphraïm a amèrement irrité l'Éternel, son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé, il fera retomber sur lui son mépris. Il insiste ici sur le fait que Israël a été coupable d'idolâtrie, mais que Jacob, Juda, le royaume qui avait pour capitale Jérusalem, qui regroupait les tribus de Juda et de Benjamin, lui aussi a été désobéissant à Dieu. Et il rappelle qu'en fait, c'est comme le prophète Jacob qui avait été renommé Israël. Jacob, ça voulait dire celui qui attrape le talon, celui qui supplante, qui essaye de supplanter son frère. Vous vous souvenez qu'il y avait Isaac avait eu par Rebecca deux jumeaux, Jacob et Ésaü, et que c'était Ésaü qui était sorti en premier, qui avait le droit d'aînesse, mais dès l'enfance, dès le ventre maternel, Jacob montrait son caractère de tricheur, de supplanteur. Il aurait aimé avoir le droit d'aînesse et sortir le premier. On sait qu'il va tromper son frère et obtenir le droit d'aînesse avec ce fameux plat de lentilles. C'est des allusions à ce qu'on peut lire dans la Genèse. Verset chapitre 25 et suivant. Il a lutté avec l'ange. Il a lutté avec Dieu. C'était l'ange de l'Éternel. Certains pensent que l'ange de l'Éternel, c'est un terme qui désigne des apparitions de Jésus avant son incarnation. C'est Jésus préincarné. Toujours est-il qu'il y en a un seul, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on pense qu'il s'agit du futur Messie. Il s'est battu avec lui. Il dit qu'il a lutté toute la nuit. Il voulait être béni par Dieu. Et Dieu l'a touché à la hanche. Et lui a démis la hanche, qui est le lieu ou l'endroit plutôt du corps où on a le muscle le plus puissant. Il avait touché ce muscle. Et là, ce n'est pas dit dans le récit, dans la Genèse, mais on sait que ça lui a fait tellement mal qu'il a pleuré. Là, il est dit, Jacob a été, il a lutté avec l'ange, verset 5, il a été vainqueur, il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob avait eu ce rêve où il voyait une échelle et des anges qui montaient entre la terre et les cieux. Cette échelle, il est dit plus tard que c'était Jésus. C'est lui qui nous permet d'entrer en communication, en relation avec le Père. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. L'Éternel est aussi en procès avec Juda. Il va intervenir. Il va lui faire payer un salaire conforme à ses agissements. Là aussi, par amour, Dieu laisse les conséquences de nos péchés nous faire souffrir. Ce n'est pas faute souvent de nous avertir avant que le péché va nous faire du mal, mais si on persiste, la seule solution, entre guillemets, qui lui reste, c'est de dire « tu veux y aller, vas-y ». Pour nous permettre de nous repentir, de réaliser que d'avoir brisé le cœur de Dieu, ça nous brise le cœur aussi, et la vie. Jacob donc avait essayé de tricher avec Ésaü dans le ventre de la maman. Il s'était battu, il était retourné à Bethel, avait retrouvé la bénédiction de Dieu, c'est la Genèse 35. Et ce qu'il veut dire au verset 7, c'est qu'il est temps de revenir à Dieu. Pour Israël, comme pour Juda, comme pour vous et moi. Lorsque nous sommes éloignés de Dieu, que nous vivons les conséquences de notre péché, Dieu nous appelle à revenir à lui. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et encore une fois, c'est la bonté de Dieu qui nous conduit à la repentance. C'est lorsqu'on a le cœur brisé, du fait d'avoir brisé le cœur de Dieu, qu'on a vraiment la repentance. Si on décide ou on professe de revenir à lui sans avoir eu cette transformation de notre cœur, alors ça ne va pas durer. Ce n'est pas quelque chose qui va nous amener le pardon de Dieu. Dieu veut qu'on vienne sincèrement, profondément, vraiment, qu'on réalise qu'on lui a brisé le cœur. Les versets 8 à 14, en fait, ils parlent de vantardise. L'orgueil. J'aime bien dire que l'orgueil, c'est stupide. Qu'est-ce qu'on a reçu qui ne nous est pas été donné ? Là, il pensait, Éphraïm était un Cananéen dans certaines versions, qui étaient des hommes donc non-croyants, des païens, des Cananéens, et souvent ces hommes, et c'est ce qui se passe dans le monde, les hommes qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce qui est leur Dieu généralement ? C'est l'argent. Et donc dire cananéen, c'était comme une insulte pour dire vous êtes des marchands, vous ne pensez qu'à l'argent. Éphraïm trichait, ils avaient des balances fausses. Il aimait bien tromper, comme Jacob avait ce caractère jusqu'à ce que Dieu transforme son cœur. Et il disait, je me suis enrichi. On dirait aujourd'hui, je suis un self-made man, self-made woman. J'ai réussi tout seul. Je suis un whiz kid. Je suis Steven Jobs. Je suis Macron. Non, il n'a rien fait encore. Mon succès, je le dois qu'à mes propres efforts, à mes dons, à mes talents. Alors qu'en fait, c'est Dieu qui nous donne ses talents, c'est Dieu qui bénit. C'était beaucoup de vent. Éphraïm, verset 2 du chapitre 12, Éphraïm se nourrit de vent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. On voit les choses qui motivent les gens, indépendamment de l'argent, ça va souvent avec, c'est la célébrité. Les gens se battent pour être dans les prime time, passer à la télé. On voit un peu toujours les mêmes qui font le tour des studios. Et puis un jour, on ne les voit plus, on les oublie. C'est 30 ans plus tard qu'on nous rappelle qu'ils sont décédés et qu'en fait, c'était eux qui étaient célèbres à telle époque. C'est du vent. Il s'était enrichi en fait en trichant sur le dos des pauvres. Une telle richesse ne peut pas durer. Si nos priorités sont fausses, si notre priorité c'est de devenir célèbre, de devenir riche, d'avoir tous les plaisirs du monde, d'avoir des biens mobiliers et immobiliers, si on a des idoles, en fait, si on sert des idoles, ça ne va pas durer. Tôt ou tard, on va être rattrapé, que ce soit par la mort, par la faillite, par le rejet. Son Seigneur, Éphraïm, a amèrement irrité l'Éternel. Lorsqu'on se livre à l'idolâtrie, et encore une fois, je vous invite à laisser l'Esprit sonder vos cœurs, vos vies, pour vous montrer où est-ce qu'il y a de l'idolâtrie. L'idolâtrie, ça peut être même la peur des autres, savoir ce que pensent les autres. Des fois, on pense que d'être timide ou humble, c'est une qualité. Dieu nous appelle à être humble parce qu'on n'a rien qu'on n'ait pas reçu, mais des fois, ça ne veut pas dire qu'on doit être timide et ne pas prendre la parole pour parler de Dieu au milieu de ses copains, de sa famille. On peut amèrement irriter l'Éternel lorsqu'on ne fait pas sa volonté. Son Seigneur rejettera sur lui tout le sang qu'il a versé, il fera retomber sur lui son mépris. De la même façon qu'on traite Dieu, il va nous traiter. Jésus dit, si vous ne me confessez pas devant les hommes, je ne vous confesserai pas devant mon Père qui est dans les cieux. Tout ça, ce sont des choses, on pourrait repartir, voir tous les passages qui mentionnent Galaad, les sacrifices de Gilgal. Tous ces endroits sont décrits dans l'Ancien Testament. Ça fait référence à des choses qui étaient connues par les contemporains d'Osée, des fois moins par nous-mêmes, mais c'est là qu'il est bon de lire toute la Bible, d'étudier toute la parole pour voir l'image d'ensemble. Mais encore une fois, Dieu nous dit « Ne me fendez pas le cœur, tu me fends le cœur. » C'est terrible de penser qu'on peut, mon petit péché, ma petite personne, ça peut affecter le créateur de l'univers et lui fendre le cœur, briser son cœur. C'est quand je réalise ça que c'est plus facile de renoncer à mes petits plaisirs attachés au péché et de lui demander le matin, « Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Amen. Prions. Seigneur, merci parce que tu veux nous avertir, Seigneur. Tu nous parles à travers ces histoires d'un autre âge. Seigneur, nous voyons que nous avons le même cœur tortueux. Nos cœurs sont toujours habités par le péché au naturel. Nous avons besoin d'être naître de nouveau, de venir à toi, de te demander pardon pour le mal que nous te causons, Seigneur. Aide-nous à ne pas briser ton cœur, Seigneur. Aide-nous à ne pas succomber aux tentations. Seigneur, tu es là pour venir nous aider. Tu veux venir à notre rescousse. Tu nous as donné ton Esprit Saint qui nous permet de discerner les choses. Tu nous as donné la communion fraternelle où nous pouvons avoir des vis-à-vis qui nous encouragent. Tu nous donnes les conséquences aussi, des fois, de notre persistance dans le mauvais chemin. Seigneur, nous voulons nous repentir. Nous voulons venir à toi. Nous voulons être vraiment tes disciples, Seigneur. Faire ta volonté. Venir chercher des instructions auprès de notre bon maître, celui qui nous veut du bien. Nous avons un ennemi de nos âmes qui veut nous faire croire que tu ne peux plus nous pardonner, que tu nous as pardonné trop longtemps et que maintenant c'est fini. Seigneur, tant que nous vivons, nous pouvons revenir à toi, Seigneur. C'est toujours le moment de revenir à Dieu, Seigneur. Comme nous l'avons lu la semaine dernière dans Osée 10, 12, c'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour nous la justice. Nous avons semer de mauvaises choses, on cultiver le mal, nous moissonnons le péché, manger le fruit du mensonge. Mais Seigneur, tu es toujours prêt à nous pardonner, à nous aimer. Tu n'as pas cessé de nous aimer. Aide-nous à le comprendre davantage de jour en jour. Aide-nous à le partager avec ceux qui nous entourent de jour en jour. On prie pour ceux qui seraient découragés dans leur péché, Seigneur. Ces péchés habituels qui peuvent nous rendre esclaves. Seigneur, toi, tu es tout puissant pour briser les chaînes de l'esclave et les remplacer par des cordages d'amour, Seigneur. C'est notre prière. Et peut-être parmi nous, il y en a qui ne sont jamais venus encore à Jésus-Christ. Et je vais vous demander si c'est votre désir d'être pardonné une fois pour toutes et d'être habité de l'Esprit Saint qui va vous aider à avoir la victoire sur le péché. Je vous invite à prier dans le silence de vos cœurs une prière de comme celle que je vais prononcer. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je fais des choses qui te brisent le cœur et qui ont de mauvaises conséquences pour moi-même. J'ai besoin de ton pardon, Seigneur. Je suis désolé pour mes péchés passés. Je te demande vraiment de me pardonner, Seigneur Jésus. Je sais, je crois que tu es mort sur la croix pour payer pour mes péchés à ma place. Et que si je l'accepte, si je te reçois dans mon cœur, alors mes péchés sont pardonnés. tu es mort sur la croix, mais tu es ressuscité d'entre les morts. Et tu me dis que si je crois en toi, quand bien même je serai mort, je reviendrai aussi à la vie éternelle. Seigneur, je t'ouvre la porte de mon cœur pour que tu viennes y habiter. Je t'invite à venir prendre le contrôle de ma vie. Je réalise que je ne peux rien faire pour mériter le salut, l'acceptation par toi et la vie éternelle. Et je mets toute ma confiance en toi seul, Jésus, Christ, Seigneur, Sauveur, pour ce salut, pour la vie éternelle. Fais de moi un disciple. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci Seigneur d'entendre ma prière et d'y répondre. Merci pour le don de la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous demanderai de lever la main discrètement. Que le Seigneur vous bénisse et venez me parler après. L'ennemi veut toujours nous faire penser qu'on c'était qu'un moment d'émotion. Mais quand vous venez à lui comme ça, il se passe quelque chose de réel dans le domaine spirituel. Sachez qu'il y a des anges qui font la fête. La fête de la musique, c'est rien à côté de ce qu'ils sont en train de danser, de chanter dans les cieux.